Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Kamaraygal de la nation Guringai ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit de Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless. Je vais vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Au menu du jour, on va revenir sur les inondations de ces deux dernières semaines sur la côte est australienne. La pluie a enfin cessé de tomber, mais pour les victimes de ces intempéries exceptionnelles vient maintenant le temps des réparations. Nous sommes allés constater l'étendue des dégâts dans la ville de Camden, à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Sydney. Le jeudi, c'est aussi le jour où on parle d'économie en Australie. Aujourd'hui, avec Nicolas Perpich, on va s'intéresser aux conséquences de la guerre en Ukraine sur le prix de l'essence, qui a beaucoup augmenté ces derniers jours. Christophe Mallet va lui nous faire un point complet sur les sports, avec notamment un retour sur la défaite du PSG face au Real Madrid il y a quelques heures, le Real qui l'a emporté grâce à un magnifique triplé de Karim Benzema. Et puis, on a également discuté avec le sénégalo-australien Lamine Sonko. Il nous parle de son documentaire sur la communauté africaine en Australie. Mais tout de suite, place à l'info, c'est l'heure du journal. À la une de l'actualité de ce jeudi 10 mars 2022, au moins 1200 civils ont été tués par l'armée russe dans la ville de Mariupol, d'après la mairie qui dénonce un génocide. Hier, c'est un hôpital pédiatrique qui a été bombardé par les Russes. En Australie, le gouvernement fédéral, critiqué ces derniers jours pour la lenteur de l'aide apportée aux victimes des inondations, promet aujourd'hui des moyens financiers supplémentaires. Et puis, aux États-Unis, l'homme qui s'était fait greffer un cœur de porc génétiquement modifié est décédé. Je vous le disais dans les titres, plus de 1200 civils auraient été tués dans la ville ukrainienne de Mariupol depuis le début de l'invasion russe. Ce sont des chiffres qui ont été communiqués par la mairie de cette ville qui parle de génocide. Mariupol, en tout cas, continue d'essuyer de nombreux bombardements. Hier, des projectiles russes se sont ainsi abattus sur un hôpital pédiatrique. Sur place, l'envoyé spécial de RFI, Vincent Sourillot.
Effectivement, le complexe hospitalier n'est plus qu'une ruine. Les bâtiments ont été soufflés. On n'y voit plus que des lits éventrés, des feuilles de papier et des morceaux de verre au sol. Et ces images choquantes, capturées dans la foulée de ce bombardement, des femmes enceintes, hagardes, au visage ensanglanté, portées à bout de bras par les secouristes ukrainiens. Certaines de ces femmes ont été évacuées sur des brancards dans un paysage totalement dévasté, celui de Mariupol, qui vit un enfer depuis une semaine de siège mise en place par l'armée russe. Il n'y a plus de vivres sur place. Plus de médicaments, plus d'électricité, plus d'eau courante, plus de gaz. Les habitants en sont réduits à couper des arbres pour faire du feu et à faire fondre la neige pour s'hydrater. Et des photos circulent, des photos de fosses communes creusées à la hâte pour enterrer les victimes des frappes aériennes. Il y aurait à ce jour, Alexandra, plus de 250 000 personnes toujours prises au piège à Mariupol.
Et ces combats entre forces russes et la résistance ukrainienne mettent également à mal la sécurité nucléaire. C'est ce qu'a expliqué la compagnie d'État ukrainienne chargée du nucléaire, justement, actuellement dans l'incapacité de réparer une ligne électrique qui connecte la centrale de Tchernobyl. Le risque, c'est celui d'une fuite radioactive. Et ce risque est réel, d'autant que le ministre ukrainien des Affaires étrangères a rappelé que les réserves en diesel qui alimentent actuellement la centrale ne permet à la centrale de fonctionner que pendant une durée de 48 heures. De son côté, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a elle tenu à dédramatiser. Elle assure que Tchernobyl et la centrale de Zaporojia, dont l'armée russe a pris le contrôle il y a quelques jours, elle assure que sur ces deux sites, il n'y a aucun risque d'incident nucléaire.
The situation at the Chernobyl and Zaporizhzhia nuclear power plants is being controlled by Ukrainian specialists and Russian militaries. Background radiation is under control on both plants. Facilities at the Zaporizhzhia nuclear power plant work in normal technological mode. There are no risks for civilians living in neighboring areas.
En attendant, plus de 2 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de la guerre. Ils se rendent principalement en Pologne, mais également en Hongrie ou encore en Moldavie. À Chișinău, la capitale de ce pays, l'envoyé spécial de RFI, Oriane Verdier, nous raconte comment sur place se déroule l'accueil des réfugiés.
Ici, chacun met la main à la pâte, apporte des dons ou propose des hébergements. La Moldavie, c'est un peu le petit frère de l'Ukraine. En tout cas, c'est comme ça que beaucoup de Moldaves me l'ont présenté. C'est d'ailleurs le pays frontalier où les Ukrainiens trouvent une langue commune, le russe, pour discuter. Ici, la majorité de la population parle en effet russe et roumain. Mais derrière ce chaleureux élan de solidarité, on ressent également une population sous le choc. Il y a bien sûr la compassion avec les Ukrainiens qui arrivent ici et y livrent des témoignages terribles. Mais il y a également la proximité de la guerre. Certains habitants de Chișinău affirment entendre les bombardements sur la ville portuaire d'Odessa. Et surtout, cette nouvelle guerre réveille des traumatismes anciens chez les Moldaves. Juste après la dissolution de l'URSS, une guerre a éclaté ici entre séparatistes pro-russes et Moldaves. Aujourd'hui, une bande de territoires le long de l'Ukraine a déclaré unilatéralement son indépendance. Des armes et des militaires russes y sont présents. Ici, on craint donc de bientôt passer du statut d'hôte à celui de réfugié. Oriane Verdier, Chișinău, RFI.
Après s'être rendu dans la ville de Lismore hier, dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, pour constater l'étendue des dégâts causés la semaine dernière par les inondations, le Premier ministre Scott Morrison est aujourd'hui dans le sud-est du Queensland. Ces derniers jours, le gouvernement a débloqué 25 millions de dollars supplémentaires destinés aux victimes de ces inondations, mais beaucoup d'entre elles disent n'avoir toujours rien reçu et par ailleurs ne pas pouvoir compter sur autre chose que la solidarité des membres de leur communauté. Face à ces critiques, c'est le trésorier du gouvernement Josh Frydenberg qui a assuré sur la chaîne ABC que le gouvernement fédéral faisait pourtant tout ce qui était en son pouvoir. On l'écoute.
But there's going to be a massive rebuilding task, and we'll be there with the people of Queensland, with the people of New South Wales, and we've already announced very significant payments for primary producers, for small businesses.
Ces inondations, en tout cas, resteront dans l'histoire comme l'une des plus graves catastrophes naturelles de l'Australie. C'est l'avis rendu par le Climate Council dans un rapport qu'il vient de publier. Dans ce rapport, il explique que le réchauffement climatique a joué un rôle central dans ces événements météorologiques qui les a, pour être plus précis, qui les a amplifiés, ces intempéries, et rendu et donc ces précipitations encore plus violentes qu'elles ne l'auraient été. Ces intempéries, en tout cas, on sait qu'elles vont coûter extrêmement cher, plus de 3 milliards de dollars d'après les compagnies d'assurance. Et si les inondations sont la raison principale du déplacement de Scott Morrison dans le Queensland, le Premier ministre a également annoncé ce matin le recrutement de 18 500 personnes supplémentaires pour renforcer les rangs des forces armées, mais aussi des services de renseignement. C'est une augmentation de 30% des effectifs d'ici à 2040. L'objectif présenté par Scott Morrison serait de permettre à l'Australie de mieux faire face aux futures menaces. Lundi dernier, dans une adresse au Lowy Institute, Scott Morrison avait évoqué, je cite, « un arc d'autocratie » composé de la Chine et de la Russie qui chercherait à remettre en cause l'ordre mondial et à le remodeler à son image. En tout cas, ces recrutements supplémentaires vont coûter cher, 38 milliards de dollars d'après Scott Morrison.
And with this investment, we're going to make sure that the Australian Defence Forces are a big contributor for generations to come as more and more people take up those careers in our defence forces.
Et en parlant du Lowy Institute, où donc s'est exprimé lundi Scott Morrison, aujourd'hui, et au moment même où je vous parle, c'est au tour du leader des travaillistes, Anthony Albanese, qui vient d'y présenter les grandes orientations du Parti travailliste concernant la politique étrangère et notamment les questions de défense. Il a ainsi, par exemple, expliqué que les trois piliers de la politique en matière de sécurité nationale du Parti travailliste étaient les suivantes: défendre l'intégrité territoriale de l'Australie, protéger la souveraineté politique de la nation des pressions extérieures et enfin promouvoir la prospérité économique de l'Australie et sa stabilité sociale. Très rapidement, il s'est également exprimé à propos du fameux pacte AUKUS. Il a expliqué que le Parti travailliste soutenait totalement cette alliance avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. En revanche, il a estimé que la façon dont la rupture du contrat avec les Français portant sur des sous-marins conventionnels avait été une catastrophe. Il a par ailleurs également indiqué qu'il comptait, s'il était élu, s'entretenir le plus rapidement possible avec tous les services de sécurité australiens pour estimer les menaces liées non pas à des forces extérieures mais au changement climatique. La Corée du Sud a un nouveau président. Il s'agit du candidat de l'opposition Yoon Suk Yeol. Il vient donc de l'emporter de justesse et c'est lui qui va donc diriger la quatrième économie d'Asie. Le président élu Yoon est issu du parti du pouvoir du peuple et c'est donc sans surprise qu'il a estimé que le résultat de ces élections n'était pas une victoire pour lui personnellement, mais pour le peuple sud-coréen.
The competition is over for now, and I think we should all work together to become one for our people and our country.
Yoon Suk Yeol prendra ses fonctions au mois de mai prochain, et ce, pour un mandat d'une durée de 5 ans. En France, le premier tour de l'élection présidentielle se déroulera dans pile un mois, le 10 avril prochain. Le président sortant, Emmanuel Macron, a pour sa part exclu l'idée de participer à un débat avant ce scrutin avec les autres candidats. En revanche, certains d'entre eux comptent bien en découdre. Ce sera le cas ce soir du candidat d'extrême droite Éric Zemmour et de la candidate des Républicains Valérie Pécresse dans un débat qui sera diffusé donc ce soir sur TF1 et LCI. Tous les deux sont actuellement en perte de vitesse dans les sondages. Ils se disputent par ailleurs le même électorat. Ce sera la première fois qu'ils débattront ensemble. Une tentative pour eux de relancer leur campagne alors que, si on en croit justement les derniers sondages et les intentions de vote, ni l'un ni l'autre pour l'instant ne sera qualifié pour le second tour. On écoute les explications de Julien Chavanne pour RFI.
Dans sa vie d'avant, Éric Zemmour était tous les soirs à la télévision et il a déjà affronté Jean-Luc Mélenchon devant les caméras. Alors c'est sûr, Valérie Pécresse ne part pas favorite. Après avoir beaucoup hésité, elle a finalement décidé de monter sur le ring. Mais son entourage est lucide. Elle n'a plus rien à perdre, explique Cash, un membre de son équipe de campagne. Tout le monde s'attend à ce qu'elle se fasse exploser. Si elle résiste, elle a déjà gagné, ajoute un autre soutien. Pour fragiliser Éric Zemmour, Valérie Pécresse devrait jouer la carte femme face à un candidat accusé d'agression sexuelle par 8 personnes. Le candidat de Reconquête, lui, cherche toujours à séduire l'électorat de droite en présentant Valérie Pécresse comme la copie d'Emmanuel Macron. Les deux candidats jouent gros ce soir. À 31 jours du scrutin, la moindre erreur compte triple. Un dérapage handicaperait encore plus Éric Zemmour. Une mauvaise prestation plomberait davantage Valérie Pécresse.
On se rend maintenant aux États-Unis où David Bennett est décédé. Cet homme malade du cœur avait été le premier greffé avec un cœur de porc génétiquement modifié. Cette expérience, loin d'être considérée comme un échec, aura permis à cet homme de vivre 2 mois supplémentaires et ce alors qu'il était condamné. Pour RFI, Frédéric Genot.
Pour les chercheurs, ce qu'il faut retenir de cette expérience, ce n'est pas la mort de David Bennett, mais le fait qu'il a vécu 2 mois avec un cœur de porc génétiquement modifié. Et de plus, pendant plusieurs semaines, il n'y a eu aucun signe de rejet. Le patient a été condamné. Son état ne permettait pas d'envisager une transplantation cardiaque classique. Il était totalement volontaire pour cette greffe expérimentale. Son fils s'est d'ailleurs félicité de ses précieuses semaines passées en famille grâce à cette opération. Mohamed Mohyuddin se dit optimiste le directeur scientifique du programme de xénotransplantation de l'hôpital universitaire du Maryland, estime que cette opération va fournir des données très intéressantes pour les prochaines xénotransplantations, autrement dit, les greffes à partir d'une autre espèce animale. Le cochon est depuis longtemps considéré comme une source potentielle de greffons pour l'homme. Si l'on peut modifier ses organes pour éviter les rejets par l'organisme, les xénogreffes suscitent donc un immense espoir. Aux États-Unis, 110 000 personnes attendent actuellement une greffe d'organes.
Et pour terminer ce bulletin d'information, on jette maintenant un œil à la météo du jour. Alors on commence par souhaiter bon courage à ceux qui se trouvent actuellement à Perth sous un soleil de plomb aujourd'hui et où la température va monter jusqu'à 37 degrés. Le soleil est également au rendez-vous à Adelaide, mais il est dans cette ville bien plus supportable, il y fait 26 degrés. 21 degrés à Melbourne, sous les nuages ce jeudi. 23 degrés à Sydney, où le temps est au sec, malgré quelques nuages également, mais globalement, on est sous un beau ciel bleu. Des averses, en revanche, sont attendues aujourd'hui à Brisbane, avec 28 degrés au thermomètre, et puis 33 degrés attendus à Darwin, où il y aura beaucoup d'humidité dans l'air. Dans ce monde qui va justement tellement vite, ça fait du bien d'écouter un morceau comme celui-ci qui s'intitule justement « Pas si vite ». Il est interprété par les Parisiens Joe Joa et Lieutenant Nicholson. 13h20 sur SBS, on vous parle en français jusqu'à 14h et maintenant c'est le magazine des sports. Il est présenté par Christophe Mallet.
Journal des sports et on débute avec la défaite du Paris Saint-Germain face au Real Madrid en Espagne au stade de Santiago Bernabéu. C'était les huitièmes de finale donc de la Champions League et les Parisiens qui avaient gagné le match aller 1-0 se sont fait rattraper. Remontada du Real Madrid donc 3-1, 3 buts de Karim Benzema. Retour sur ce match avec Hugo Moissonnier.
Ah bah c'est plus qu'une déception, c'est un fiasco incroyable, inimaginable. J'en ai perdu ma voix, Loïc. On pensait le PSG vacciné contre les remontées, les remontadas, mais après Barcelone 2017, après United au Parc en 2019, il y a Madrid en 2022, c'est une catastrophe. Et pourtant Paris, qui avait remporté la manche aller, faisait le match parfait jusqu'à l'heure de jeu, à la pause. Il menait 1-0, grave. Kylian Mbappé, l'histoire était tellement belle, lui qui est courtisé par le Real Madrid pour la saison prochaine. De cartes parisiens, c'est complètement écroulé. Eternel Real s'est réveillé, Paris a fait n'importe quoi en défense et Benzema, vous l'avez dit, a signé un triplé royal, le français capitaine d'un Real qui signe une qualification absolument renversante pour Paris. C'est une nouvelle catastrophe et pour les propriétaires qatariens, notamment qui rêvent de la Ligue des Champions, qui vont voir de nouveau cette coupe leur échapper à quelques mois de leur Coupe du Monde, malgré les stars, malgré Messi, malgré Neymar, malgré Mbappé. La coupe aux grandes oreilles se dérobe une nouvelle fois.
Hugo Moissonnier, donc énorme déception dans le camp parisien, vous l'aurez compris, le Paris Saint-Germain qui est une nouvelle fois éliminé en Ligue des Champions au niveau des huitièmes de finale. Il y avait un autre match hier soir également, Manchester City qui se qualifie malgré un match nul chez eux 0-0 contre le Sporting 0-0 qui les qualifie puisqu'ils avaient gagné 5-0 au match aller. Plutôt avant-hier, Liverpool s'était qualifié malgré une défaite face à l'Inter de Milan 1-0, 2-1 au total. Liverpool donc qualifié et le Bayern de Munich qui se qualifie également face à Salzbourg avec un total donc de buts et une victoire de 7-1. 1. Dans l'autre partie du tableau pour la Ligue des Champions, Manchester United jouera la semaine prochaine face à l'Atlético. L'Ajax d'Amsterdam affrontera le Benfica et nous aurons également la Juventus de Turin contre Villarreal et l'OSC, le dernier espoir français, donc le LOSC, l'Olympique de Lille, qui jouera donc contre Chelsea, un match énorme. Et surtout une défaite de 2-0 au match aller à remonter pour les Lillois. Voilà donc pour le football. On va parler maintenant de cyclisme. Tout d'abord, eh bien, l'Australien Caleb Ewan qui gagne l'étape numéro 3, la troisième étape du Tour de Tirreno Adriatico en Italie. Donc victoire de l'Australien sur cette épreuve. Et le Paris-Nice, bien entendu, on se doit de parler du Paris-Nice. L'épreuve mythique donc, d'une semaine entre donc, Paris et Nice. Et la victoire dans le contre-la-montre du Belge Wout van Aert. Il prend également mainmise sur ce tour avec le maillot jaune de leader Wout van Aert.
Yeah, obviously means a lot. It's one of the biggest races of the year. It's the iconic yellow jersey everybody knows in cycling. So hopefully it's not the last time this year I can wear it.
Well on today, would you say it was the perfect course for you because it was certainly not flat.
Well, on paper, maybe it looks like a really good course for me, but before previous years, I always had a hard time when it was a course where you really have to change your rhythm all the time. Hard to find the right pacing strategy, but today I managed to do it well, I guess, and it resulted in a beautiful victory.
The question is, how are your climber's legs now?
Well, I think quite good, but I think the most important part of Paris-Nice, personally, is over for me. It's a race of preparation for me towards the classics that's coming, and I hope to hand over this jersey one of the next days to my teammate Primoz. We're here with him to win this race, and I'll be happy to help him with that. But yeah, I have my stage victory now. I can enjoy this jersey tomorrow, and that's the most important.
Wout van Aert. Je vous rappelle que Paris-Nice, vous pouvez le suivre tous les soirs à l'antenne de SBS Télévision. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour le reste du programme. À tout de suite.
À 16 ans, je voulais juste avoir 17. 17 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête.
On vient d'écouter le rappeur Orelsan et ce morceau, La Quête, issu de son dernier album Civilisation, qui est sorti en tout début d'année. Tout de suite, on fait une très courte pause de publicité et puis juste après, on retrouve Nicolas Perpich et Christophe Mallet pour le journal de l'économie en Australie consacré à un sujet qui, je suis sûr, vous intéresse tous beaucoup, les prix qui montent et qui montent à la pompe.
Allez, comme chaque semaine, tour d'horizon pour l'actualité économique en Australie avec Nicolas Perpich. Bonjour Nicolas.
Bonjour Christophe.
Alors, on va parler bien sûr du pétrole, du prix du pétrole et de la guerre en Ukraine qui est peut-être loin en termes de territoire, mais bon, elle a quand même un effet économique en Australie qui est certain et on le voit tous les jours à la pompe.
Voilà, exactement. Même juste hier, moi, je suis allé faire le plein de ma voiture et il y avait une ligne de je ne sais pas combien de voitures qui descendait la route. Donc, tout le monde savait que le lendemain, le prix allait monter encore une fois. Et là, on voit des prix qu'on n'a jamais vus en Australie. Donc, c'est assez incroyable. Nationalement, la moyenne pour l'essence, c'est 184 centimes pour un litre d'essence. Mais il y a des endroits, il y a des villes où c'est plus de 2 dollars depuis un petit moment maintenant. Et même, on a vu à Adélaïde, à Perth, il y a des prix de 2,20 pour un litre de unleaded petrol. Donc, absolument incroyable. Mais c'est pas que la guerre en Ukraine. Bon, c'est vrai que ça crée une incertitude, des risques énorme, gigantesque sur les marchés autour du monde, mais aussi parce qu'il y a aussi des pays autour du monde où les restrictions liées à la pandémie commencent à être levées. Donc les gens, ils sortent plus, ils utilisent leur voiture plus qu'avant, ils recommencent à prendre des vols pour aller en vacances, etc. Mais les pays qui produisent du pétrole, le brut, n'ont pas encore décidé d'en produire plus. Donc, il y a un manque. Et donc, c'est sûr que à cause de ces deux choses-là, les prix vont continuer à monter. Ça, c'est absolument sûr. Et l'effet sur les gens, du jour à jour, peut être très, très dur. Parce que, bien sûr, il y a énormément de gens qui dépendent de leur voiture pour aller au travail ou même pour travailler. S'ils ont des jobs où c'est essentiel de conduire partout, camionneur ou tradie par exemple, mais même pour aller visiter la famille, s'ils habitent trop loin, ça devient cher. Pour faire un grand voyage de vacances en route, le Great Australian Road Trip, tout d'un coup ça devient extrêmement cher. En parlant avec des gens, il y en a aussi qui disent que voilà, ça montre pourquoi on devrait en fait accélérer le changement vers les voitures électriques et vraiment commencer à mettre fin à notre dépendance sur le pétrole, sur les carburants.
Oui, tout à fait. Alors, j'allais dire la phrase de base, hein, faites du vélo, mais bon, après, je prêche en converti. Hein, c'est autre chose. Les gens qui me connaissent savent que je suis plutôt un aficionado du vélo. Cette augmentation de prix, vous le dites, elle a un impact sur le prix du pétrole, mais pas que ça, en fait. C'est un impact sur presque toute l'économie en Australie.
Bah oui, voilà, parce que en fait, le moment qu'on veut transporter quelque chose d'un bout du pays à l'autre ou d'un pays à l'Australie, ça coûte plus cher maintenant à cause du prix de l'essence, etc., qui coûte beaucoup plus cher. Mais aussi, maintenant, il y a les vacances de Pâques qui arrivent, ou des gens qui préparent pour les vacances de Noël, qui veulent réserver des billets d'avion, ça va coûter plus cher. Déjà, le chef de compta, c'est Alan Joyce, il a confirmé ça. Donc, on va voir que ça nous coûte plus cher pour aller de Sydney à Melbourne, Sydney à Darwin, etc., pour des vacances et pour le business. Et donc vraiment, cette crise, ça montre jamais, comme jamais, à quel point on dépend sur l'essence, même pour faire des courses, chaque fois qu'on amène les enfants à l'école ou qu'on va les chercher pour visiter des amis. Et donc, il y a CompSec, qui est une organisation qui analyse des choses comme ça, qui estime que chaque domicile, chaque famille dépense à peu près 260 dollars sur l'essence chaque mois. Et ça, c'est déjà 35 dollars de plus qu'au début de l'année. Et c'est bien sûr pas fini, ça va devenir encore plus en plus cher, comme on a dit. Mais ça a un autre effet. Ça veut dire qu'on a, bien sûr, moins d'argent pour dépenser sur d'autres choses. Donc, ils disent que c'est comme un taxe sur les autres dépenses, parce que cet argent, on a besoin pour l'essence, donc c'est un peu de la dead money, on peut dire. L'argent qui ne va pas stimuler ou de faire marcher le reste de l'économie. Et c'est un peu pourquoi donc la Banque centrale sonne l'alerte sur le risque de l'inflation et aussi en même temps dit qu'il y a moins, ils sont vraiment pas pressés pour faire lever le taux d'intérêt. Donc vraiment là, c'est une période comme on n'a pas vu depuis très longtemps, une période d'incertitude où tout est un peu bousculé, même ici en Australie, au bout du monde, à l'autre bout du monde de l'Europe et de l'Ukraine.
Vous vous souvenez, à un moment ou à un autre, on se disait, oh, l'après-Covid va être extraordinaire.
Oui, mais ça, on ne pouvait pas prévoir ça.
C'était clair. Merci Nicolas d'avoir décrypté l'actu économique pour nous à travers le pays aujourd'hui.
Merci Christophe.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
D'entendre la douce voix d'Alexia Grody, sur ce morceau qui s'intitule « Sinon, rien ». Vous êtes sur SBS, c'est l'émission en français, il est 13h39, et maintenant, on va revenir sur ces inondations qui ont frappé une large part de la côte est australienne ces deux dernières semaines. Mardi, c'est un véritable déluge qui s'est abattu sur Sydney et sa région. Parmi les villes qui se sont retrouvées sous l'eau, Camden, une petite ville qui se trouve à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de la ville. Nous nous y sommes rendus hier, alors que la pluie avait enfin cessé de tomber, pour y rencontrer des habitants et des commerçants désemparés par l'étendue des dégâts. Aujourd'hui, enfin, le ciel est bleu et l'eau a reflué plus rapidement que prévu. Mais Jim, comme les quelques 80 résidents du parc à caravane où il habite depuis 5 ans, est au plus mal. Tout ce qu'il possédait a été submergé la veille.
It's just a total write-off. There's nothing that I can see that's worth salvaging. I'm homeless now.
Une association lui a payé quelques nuits dans un motel, mais il faudra attendre plusieurs semaines avant qu'il puisse rentrer chez lui. Et même si en Australie la population est coutumière des catastrophes naturelles, Jim n'aurait jamais pensé y être un jour lui-même confronté.
I've always seen these type of things happen throughout the country, and you think, oh, poor buggers. And that when it happens to you, it's a different thing altogether. I've had a lot of tears this morning, you know.
Quelques centaines de mètres plus loin, le choc est immense également pour Rina. Dans son restaurant, l'eau est montée hier jusqu'au toit. La route le long duquel il se trouve vient d'être rouverte à la circulation. C'est à ce moment-là que nous la croisons.
Wow, where is everything? All our tables and chairs.
Ses tables et ses chaises sont à une trentaine de mètres de là, éparpillées à travers le champ du voisin.
This is devastating. I mean, my son has put so much work into this, and myself and my staff built this restaurant. And to come back to this, I didn't think it would be this bad.
Cet après-midi, Scott Morrison a instauré l'état d'urgence national, un procédé qui permet au gouvernement d'accélérer le déploiement de ressources humaines et financières sur le terrain. Mais le bilan de ces inondations est déjà très lourd. 20 personnes y ont perdu la vie. Les dégâts matériels sont eux estimés à plus de 2 milliards de francs. Et le pouvoir d'achat des Australiens risque aussi d'en pâtir, avec une hausse prévue de 10% des assurances. Et ce coup de génie qu'on vient d'entendre, il est interprété par un jeune chanteur qui s'appelle Danny Terreur. On arrive maintenant à la dernière partie de notre émission. Et pour terminer, on va parler un petit peu de culture. Jean-Noël Ducasse s'est entretenu récemment avec le documentariste Lamine Sonko. Il nous a parlé de sa toute dernière création, un documentaire consacré à la communauté africaine en Australie.
Eh bien, le plaisir d'avoir sur les ondes de SBS French Lamine Sonko, qui est directeur artistique, musicien, compositeur. Et je sais que vous êtes venu à plusieurs reprises sur SBS French pour parler surtout de musique. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Jean-Noël, merci beaucoup pour l'opportunité.
Et aujourd'hui, on parle d'un documentaire qui s'appelle Dupe. Ce documentaire qui va avoir une première mondiale au SCMI de Melbourne, donc à la Cinémathèque de Melbourne, à Federation Square. Et vous, vous êtes le réalisateur de ce documentaire, Lamine. Expliquez-nous ce que vous avez filmé.
Oui, ce documentaire a été filmé juste avant la pandémie. J'étais au Sénégal avec une productrice qui s'appelle Olive Monahan, qui est d'origine nouvelle-zélandaise. Ensemble, on est allé au Sénégal pour revisiter le savoir de nos ancêtres à travers les Gewels du Sénégal. Et Gewels, c'est le nom connu par les Wolofs, qui veut dire griot en français. Donc, j'étais allé au Sénégal pour revivre le savoir des Guéouel du Sénégal, qui est aussi qui fait partie aussi de mon histoire. Donc on était là-bas pour 3 mois pour filmer ce documentaire qui s'appelle Dup. Et Dup en Wolof, ça veut dire retour. Donc ce documentaire nous parle du retour aux sources, hein, pour vraiment donner un appel à la nouvelle génération des Sénégalais, ou plus particulièrement d'Africains, de retourner aux sources de nos ancêtres. Et c'est ça l'objectif de ce documentaire.
Alors, parlez-nous un petit peu du Sénégal, où vous avez grandi. Je crois que vous avez quitté le pays à l'âge de 19-20 ans pour venir en Australie.
Oui, en 2004, je suis arrivé en Australie pour terminer mes études à Victoria College of the Arts, pour faire mes études du community développement communautaire. Et après cela, j'ai décidé de rester ici pour continuer ma carrière artistique. Et vraiment, le Sénégal me manque beaucoup parce que là-bas, je suis venu, je viens d'une famille d'artistes, de griots qui portent le mémoire de nos ancêtres. Et à travers les rythmes, les chansons, j'essaie de partager la vie des griots ou des guéouels du Sénégal. Et c'est ma vie à ce moment-là ici en Australie aussi. J'essaie de le faire à travers la musique, le cinéma, etc.
Parlez-nous un petit peu des griots pour éclairer nos auditeurs. Ici en Australie, ces griots qui aident à transférer la mémoire d'une génération à l'autre, n'est-ce pas?
Mm-hmm. Oui, c'est ça. Les griots sont, comme tu viens de le dire, c'est les gardiens du savoir de nos ancêtres. Et dans ce documentaire, c'est ça que j'ai allé au Sénégal pour partager des moments intéressants et des moments très importants avec des grands guéouels du Sénégal, des griots qui m'ont vraiment guidé dans un monde métaphysique où on apprend à travers les rythmes, les chansons et les danses de rituels, on apprend des langages cachés dans ces rythmes. Parfois, on ne voit pas ces histoires dans des écritures. C'est seulement des histoires que tu apprends si tu viens d'une famille de griots, parce que les rythmes contiennent des messages. Et ces messages, c'est des messages codés par nos ancêtres qui nous aident à voyager dans un monde métaphysique où on visite des mondes parallèles, si je peux dire, des mondes parallèles des esprits, la nature et aussi le cosmos. Et c'est ces idées que je partage.
Ce documentaire va être projeté alors que ce matin même, le Sénégal vient de remporter pour la première fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations. C'était une très belle finale. Moi-même, je l'ai vue ce matin. Et est-ce que vous avez pu vivre ce moment historique vous-même?
Oui, je suis au téléphone. J'étais au téléphone avec la famille. Je me suis réveillé à 5 heures du matin pour regarder le match. Et tout le Sénégal était avec moi ici virtuellement. Par téléphone, on regardait le match ensemble et vraiment, je suis très ému de voir le Sénégal remporter la Coupe d'Afrique parce que vraiment, ça fait plus de 60 ans qu'on attendait ce moment-là. Et vraiment, de voir tout le Sénégal très content, ça m'a vraiment... je suis vraiment ému de voir ce moment. Oui, oui.
Je reviens à votre documentaire, Dup, et après la projection de ce documentaire, il y aura un concert que vous allez donner et vous serez accompagné par d'autres musiciens sur scène.
Oui, parce que ce documentaire, ça fait partie d'un très grand projet que je suis en train de développer à ce moment qui s'appelle 13-12. 13-12, c'est un projet multidimensionnel qui a beaucoup de facettes que j'essaie de partager le savoir des anciens à travers la musique, les rythmes sacrés. Quand j'ai fait la production de ce documentaire, j'ai aussi créé des musiques qui va avec. Et ces musiques-là, j'ai fait des collaborations avec des musiciens qui vivent ici à Melbourne, qui fait la musique classique. Donc, je suis en train de faire une collaboration avec la Kora, de l'Afrique de l'Ouest, avec la musique classique, pour créer un mélange culturel qui véhicule des messages qui nous fait connecter de l'Afrique ancienne à travers la musique.
Et la mine, les concerts reprennent au fur et à mesure en Australie après 2 ans de restrictions sanitaires à cause de la pandémie. Et comment est-ce que vous, en tant qu'artiste, avez-vous vécu cette période douloureuse?
Oui, la pandémie nous a vraiment bouleversé tous nos programmes d'artistiques. Comme tu le sais, toutes les salles de spectacle, les salles de cinéma ont été fermées pour très longtemps. Et ça nous a aussi permis d'ouvrir d'autres idées, de aussi créer d'autres idées et aussi d'utiliser ce moment pour faire des réflexions. Hein. Et à travers ces réflexions, c'est ça qui m'a poussé de retourner au pays et de faire des recherches sur l'anthropologie ou l'histoire de l'Afrique et essayer de le partager dans les autres formes. Et c'est ça qui m'a poussé de vraiment commencer à produire des films pour parler de nos histoires à nous-mêmes, hein, parce que vraiment, comme on le sait, l'histoire des griots a été racontée par beaucoup d'autres qui ne sont pas des griots et qui comprenaient pas beaucoup les messages codés dans des rythmes qu'on a appris pendant longtemps. Donc, ce moment avec la pandémie m'a donné l'opportunité de retourner aux sources, comme le titre du documentaire, et de vraiment revisiter la mémoire de nos ancêtres. Et c'est ça qui m'a un peu aidé avec la pandémie, de faire ce travail sur le cinéma. Mais pour dire la vérité, la pandémie nous a vraiment bouleversé tous les programmes et c'est un peu difficile pour le monde artistique.
Et j'imagine, Lamine, que maintenant vous avez plein d'idées en tête et vous avez beaucoup de projets pour le reste de 2022.
Oui, c'est ça. Ce documentaire d'UP, c'est la première partie du programme que je suis en train de partager. Et après cela, après le 24 février, je vais commencer des enregistrements à les studios avec les musiciens qui font la musique classique pour essayer de produire un nouveau album qui parle de la même concept de ce documentaire. Et il y a ça aussi, et aussi je suis en train de préparer de retourner au pays parce que il y a aussi d'autres projets que je dois faire là-bas avec l'université Cheikh Anta Diop. Il y a des académiciens qui sont vraiment en connexion et qui sont vraiment qui aiment vraiment ce documentaire d'UP que j'ai présenté le recherche quand j'étais à Dakar. Donc c'est ça le programme, c'est de finir ce documentaire, présenter ce documentaire, entrer dans le studio et après retourner au pays pour continuer le projet.
Lamine Sonko, merci d'être intervenu sur les ondes de SBS French et nos meilleurs voeux pour la projection de Dupe. Merci encore une fois.
Merci Jean-Noël, c'est gentil, merci.
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte avec ce morceau « Donnez-moi » du groupe nantais Solar Project. Nous, on se retrouve samedi à 13h précise pour une nouvelle émission en direct. Et d'ici là, vous pouvez aussi nous écouter en podcast. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de vous abonner à notre chaîne SBS French sur votre plateforme de streaming audio préférée. Merci à Mickey pour l'assistance technique qu'il a apportée aujourd'hui et grâce à qui cette émission a été rendue possible. Je vous souhaite à tous un excellent après-midi et je vous dis à très bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.